bonjour à tous et salutations des frères et sœurs d'Istre et de mon collègue ancien ce matin qui m'a dit « Mais tu as le privilège alors d'aller à Carillon, tu vas vivre deux cultes au lieu d'un ». Je lui ai dit « Ben oui, c'est formidable, effectivement, c'est pas trop long, on n'a pas l'habitude en France, mais à ce qui paraît en Afrique, ils sont des fois des cultes qui durent 3 heures, 4 heures, etc. » Voilà, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une parabole de notre maître Jésus. Et c'est la parabole de la bonne semence et de la mauvaise herbe, ou dans vos versions peut-être, la bonne semence est l'ivraie. Et c'est dans le livre de Matthieu 13, les versets 24 à 30. Le royaume de Dieu est comme ceci, ou comme ceci. Nous allons commencer par lire ce texte. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître. » Car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous la rentrerez dans mon grenier. D'abord un petit mot de contexte. Au début du chapitre 13, nous voyons que Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Nous avons donc ici un enseignement à une grande foule. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a une alternance entre des sections narratives d'un ou deux chapitres, suivies ensuite par des discours qui répondent à une problématique qui a été exposée dans les sections narratives. Dans Matthieu, il y a cinq parties narratives suivies de cinq discours chaque fois. Et nous connaissons le discours le plus connu, en Matthieu 5, qui est le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Dans le cas d'aujourd'hui, les chapitres de Matthieu 11 et 12 montrent qu'il y a un clivage de plus en plus évident au sein du peuple et des chefs religieux concernant Jésus et les perspectives du royaume de Dieu qu'il développe, qu'il explique. Alors Jésus répond à tout cela en Matthieu 13, avec pas moins de 6 paraboles concernant le royaume de Dieu. Ces 6 paraboles présentent le royaume de Dieu et des facettes de ce royaume à venir. Jésus fait de nombreux récits en paraboles, c'est-à-dire avec des histoires qui se veulent pratiques et compréhensibles par tous. Mais derrière le sens immédiat et évident du texte, il y a un sens spirituel pour chacune de ces paraboles. Une règle importante pour la compréhension des paraboles, c'est que chaque parole veut souligner une vérité essentielle, une idée force, et nous y reviendrons à la fin. Tout à l'heure, je vous poserai une question, après avoir écouté ce texte, est-ce que vous avez une idée force pour vous qui ressort? Est-ce que vous avez été frappé par quelque chose? Vous aussi, vous allez participer aujourd'hui. Pour ceux qui osent. En tout cas, vu qu'il y a une idée forte qui ressort de chaque parabole, eh bien, il ne faut pas spiritualiser chaque phrase de Jésus. Sinon, on pourrait en arriver à des erreurs doctrinales. Et quand on est prédicateur, on ne veut surtout pas prendre le risque de faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit, n'est-ce pas ? Il n'est pas toujours aisé de comprendre le sens d'une parabole. Donc, je ne sais pas ce que vous avez compris, chacun d'entre vous, à la lecture de cette petite histoire. Est-ce que vous avez des idées de ce que Jésus a voulu vous faire passer comme message ? Est-ce qu'il a voulu faire passer à toute cette foule qui était devant lui ? Que trouve-t-on comme élément que Jésus nous présente ? C'est une histoire dans un cadre agricole banal pour l'époque. Nous avons un homme qui sème de bonnes graines dans le sol. Il y a aussi un intrus qui vient, lui également, semer, mais cette fois-ci des mauvaises herbes. Et il le fait de nuit, sur le même terrain. Et cet homme est décrit comme un ennemi du semeur. Il veut clairement lui nuire. Le semeur a des serviteurs qui lui demandent des instructions pour résoudre ce problème. Que faut-il faire, maître ? Et enfin, Jésus nous décrit à la fin la séparation finale entre les bonnes semences d'un côté et les mauvaises herbes. Et cette séparation faite, il décrit le stockage des bonnes semences dans le grenier. Ceci dit, je ne sais pas si tout ceci est beaucoup plus clair pour vous. J'avais pour ma part beaucoup de questions après avoir lu cette petite histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que les disciples de Jésus en avaient eux aussi. Et grâce à ces disciples, nous avons une explication détaillée de cette parabole par Jésus lui-même. Lisons sans plus attendre un peu plus loin dans ce chapitre. C'est Matthieu 13, nous sautons au verset 36. La parabole de la mauvaise herbe expliquée. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est une appellation de Jésus. Donc il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est moi. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors je vous propose de tirer quelques enseignements des paroles de Jésus concernant l'accès au royaume de Dieu. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Eh bien, nous pouvons dire que d'une certaine manière, c'est un lieu où Dieu réside, où il règne. Nous avons chanté un chant tout à l'heure disant qu'il règne. Ce royaume existe depuis toujours car Dieu a toujours eu une zone d'influence au ciel, d'où d'ailleurs il a exclu les anges qui se sont rebellés contre lui. De plus, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est ressuscité. Et vous savez qu'il a un corps glorifié, un corps extraordinaire. Et il faut bien qu'il soit quelque part. N'oublions pas que Jésus est vivant. Il est quelque part. Il y réside au ciel corporellement, entouré d'anges serviteurs. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, qui a été une fois en extase, appelle ce lieu le septième ciel. Mais le changement qui sera notable dans l'avenir, c'est que des millions, voire des milliards d'hommes et de femmes vont rejoindre Dieu, vont être auprès de Dieu. Et pour contenir cette foule si nombreuse, eh bien Jésus va renouveler complètement le ciel et la terre pour fonder une nouvelle civilisation avec des adorateurs, des serviteurs humains. Le royaume de Dieu, chers amis, est donc bien un lieu précis et non pas une vue de l'esprit, un lieu où Dieu résidera pour toujours avec des hommes et des femmes lui appartenant. Mais comment donc accéder à ce royaume? Et est-ce l'affaire de tous? Je vous propose un plan en trois parties. D'abord, nous verrons que le salut n'est pas universel. Deuxièmement, que l'accès au royaume aura lieu immédiatement après le plus grand procès de tous les temps. Et enfin, nous verrons ce qu'il est dit sur cette entrée dans le royaume de Dieu. Dans un premier temps, nous voyons dans cette parabole une bien triste nouvelle. C'est que le salut n'est pas universel. Le salut n'est pas universel. La théologie libérale, les théologiens libéraux protestants, ont émis deux hypothèses. D'abord, le fait que Dieu étant amour, il ne refuserait personne dans son royaume. Chacun aurait droit au pardon accordé largement à tous. Deuxièmement, ils ont prédit un âge d'or pour l'humanité, c'est-à-dire une humanité, on pourrait dire, 2.0 ou 3.0 qui s'améliorerait progressivement grâce à la connaissance et à une intelligence qui augmenterait et permettrait aux hommes une plus grande sagesse. Cela conduirait finalement à la fin de toutes les guerres, de tout le mal dans ce monde, et donc à une sorte d'entrée automatique pour tous dans le royaume de Dieu. Notre parabole, comme beaucoup d'autres, dit exactement le contraire. Certes, elle n'entre pas dans des considérations théologiques, elle ne donne pas tout le détail, mais elle dit clairement que les anges élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Verset 42, ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Donc nous pouvons dire, chers amis, que le royaume de Dieu n'est pas accessible à tous les hommes. Et ce passage parle même donc de cet autre lieu qui n'a pas l'air sympa du tout, et même qui est plutôt terrifiant à dire vrai. C'est un lieu où ceux qui iront seront désespérés d'avoir littéralement loupé le coche, comme on dit, après avoir gâché tout le temps dont ils bénéficiaient dans cette vie. Dans cette parabole, nous voyons aussi un ennemi qui est clairement identifié. Jésus, dans son explication de la parabole, identifie son ennemi. Il s'agit du diable. Et là encore, les théologiens libéraux ont tenté de supprimer l'existence du diable. Le diable qui est appelé aussi Satan, démon, dragon, serpent ancien, et j'en passe. Mes chers amis, pourquoi remettre en question l'existence de Satan qui est une simple créature? Nier l'existence de Satan, c'est affirmer que Jésus a menti ou qu'il a dramatisé pour retenir l'attention de ses auditeurs. Mais prenons un peu de recul, chers amis. Qui est Jésus? Jésus n'a jamais menti, puisqu'il est parfait, qu'il est sans péché, sans tache. Satan existe donc bel et bien, même si nous ne le voyons pas de nos yeux. Chers amis, nous ne voyons pas le vent, mais nous sentons ses effets sur notre peau, nous voyons les branches et les feuilles des arbres bouger et nous comprenons que le vent est là. Satan n'est ni plus ni moins qu'une créature créée par Dieu pour le servir à l'origine. Et malheureusement, son orgueil où son envie d'égaler Dieu a conduit Satan à se rebeller contre son maître, c'est un mystère pour nous. Tel un complotiste, Satan a détourné beaucoup d'anges de leur saint service, les a dévoyés. La parole dit qu'aucun des anges démoniaques ne peut obtenir le pardon de Dieu. Ils sont inexcusables, nous dit la parole. Et des hommes même participeront à leur jugement. Donc, croire aux anges et croire au diable est important, parce que cela nous montre que nous ne devons pas choisir de croire une partie de la parole ou une autre. Finalement, de choisir ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Si nous ne comprenons pas tout dans la parole de Dieu, nous ne comprenons pas tout, beaucoup de choses nous dépassent, eh bien faisons confiance, chers amis, a priori, à ce que Dieu a voulu nous transmettre. Restons l'esprit ouvert et soumis à cette parole magnifique. De plus, ne donnons pas plus au diable de pouvoir ou de puissance qu'il n'en a réellement. Le diable a des pouvoirs extrêmement limités en fait. Il ne peut par exemple être à plusieurs endroits en même temps, contrairement à Dieu. Dieu peut être partout sur cette terre, le diable non. Il n'est qu'une créature. Il est lié dans son pouvoir et n'a pas toute la latitude pour faire le mal qu'il voudrait. À l'exemple de ce que nous voyons dans le livre de Job. Certains comparent la puissance du diable à celle de Dieu. En réalité, ce serait comparer une puce à un éléphant. Il n'y a absolument aucun équilibre entre les forces du mal et Dieu de l'autre côté. Si vous voyez une balance, ça serait comme ça. Lors de la bataille finale décrite dans l'Apocalypse, la fameuse Armageddon, en fait, si vous relisez le texte, vous serez surpris. Il n'y a pas le début du commencement de la bataille. Satan et ses troupes et les ennemis de Dieu se rassemblent et ils sont défaits instantanément, immédiatement, par la puissance de Dieu. Cependant, à cause du péché originel, Dieu laisse une certaine latitude à Satan et aux anges déchus. Certains ont comparé le diable à un chien féroce qui serait attaché à une laisse. Si vous approchez de trop près, eh bien oui, il va vous mordre. L'Écriture le compare à un lion rugissant, mais l'Écriture nous dit aussi de fuir ce lion. Donc nous voyons dans cette parabole que l'ennemi, Satan, veut empêcher les hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Il veut les encourager à faire le mal. Pourquoi ? Comme il l'a fait lui, pour qu'ils rejettent Dieu, qu'ils s'éloignent de lui. Cette parabole a-t-elle été comprise par les contemporains de Jésus ? Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas de réaction des gens qui ont écouté de cette parabole. Mes chers amis, par contre, depuis 2000 ans que nous avons la parole de Dieu, et grâce au questionnement des disciples, des millions d'hommes et de femmes ont été éclairés sur le sens de cette parabole. C'est donc pour vous, comme pour moi, un avertissement à ne pas nous laisser bercer d'illusions. Il existe un royaume de Dieu, oui, mais il existe aussi un autre lieu affreux appelé enfer. Je vous dirai cette phrase toute simple. Je me rappelle d'un voisin qui m'a dit, quand j'ai parlé un jour avec lui, de ce qu'il y avait après la mort, il a dit « on verra plus tard ». Et j'ai rien trouvé à répondre à ça, m'a scotché. Et après, en réfléchissant, je me suis dit « ne disons pas « je verrai plus tard » parce que plus tard, ce sera trop tard ». Vous êtes d'accord avec moi ? C'est maintenant ? Il faut se poser ces questions. Alors ce triste constat qu'il existe, oui, le royaume de Dieu, mais qu'il existe aussi le royaume de Satan, est une mise en garde très forte à examiner sa vie avec soin et à rechercher de toutes ses forces le royaume de Dieu si nous ne l'avons pas encore trouvé, chers amis, tant qu'il en est encore temps. Nous disons ça aux jeunes, mais au moins jeunes de notre Église, aux vieux, pourquoi pas. Et une deuxième question jaillit immédiatement. Cette entrée dans le royaume de Dieu ou pas, commence-t-elle dès la mort physique des êtres humains? Que se passe-t-il quand on meurt? Eh bien, nous voyons à travers, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais la réponse que nous pouvons donner, c'est non. Il y a un état dit intermédiaire à la mort des êtres humains qui peuvent se retrouver en présence de Dieu, oui. Mais ce n'est pas encore l'entrée proprement dite dans le royaume de Dieu. Alors voyons maintenant notre deuxième partie. L'accès au royaume de Dieu aura lieu immédiatement après le plus grand procès de tous les temps. Je veux parler du jugement dernier. Notre parabole parle d'une période appelée au verset 39 le moment de la moisson, ou au verset suivant la fin du monde, qui est répété deux fois. À une date décidée par le Père seul et même inconnue du Fils, il y aura la moisson. La moisson indique le bon temps, le bon moment pour faire la récolte. L'apôtre Pierre indique que l'homme doit accepter de souffrir dans ce monde, parce que c'est vrai, nous disons, mais bon sang, Seigneur, reviens, arrête le mal dans ce monde, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut accepter de souffrir dans ce monde, car ce temps d'aujourd'hui est le temps de la patience de Dieu, et c'est le temps du salut de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Voilà pourquoi il nous demande de patienter. Autrement dit, plus ce monde où l'ennemi de Dieu vient semer la zizanie, le chaos, la guerre, etc., inciter les hommes à pécher et à faire le mal, plus tout cela dure, plus il y aura des bonnes semences qui pourront, elles, s'épanouir en vue de la moisson future, en vue de l'éternité avec Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est dit dans notre parabole, le verset 30, laissez pousser les deux semences ensemble jusqu'à la moisson. Vous avez remarqué? Je ne dis pas que les chrétiens doivent vivre dans un monastère à part. Les deux semences ensemble. Nous devons accepter de vivre dans ce monde, non pas comme si c'était une malédiction, pardon, mais plutôt profiter de ce temps pour parler de Dieu à notre prochain. Car le désir de Dieu, c'est de sauver, de ramener beaucoup de monde encore dans son royaume. Cependant, à un temps donné, à un moment donné, il y aura la fin. Un point d'arrêt. Comme quand on a terminé sa rédaction. Le dernier point. C'est fini. En ce moment, c'est une saison magnifique pour déguster les melons, les pastèques, les abricots, les nectarines. Je suis facteur intérimaire à Saint-Martin-de-Crau, pas très loin d'ici. C'est mon nouveau métier depuis 2 ans. Et j'ai la chance d'être en voiture. Chaque fois que je pars, chaque jour, je mets dans ma besace, à côté de mes colis, de mes lettres, de mes recommandés, plein de fruits. Ces fruits qui me désaltèrent, qui me redonnent un peu de sucre, un peu d'énergie. Quel plaisir! Un abricot, lorsqu'il est à maturation, est délicieux. Et il doit être récolté. Absolument. Si on ne le fait pas, le fruit va rabougrir et pourrir sur l'arbre même. Il y a le bon temps, le bon moment pour la moisson et pour les récoltes. Chers amis, ne vivons pas comme si ce monde était éternel. Pensons à tous ceux qui n'ont pas conscience de ces choses et qui ignorent que notre monde, un jour tel qu'il est, sera brusquement interrompu. Le terme de jugement a-t-il une signification pratique pour vous? Est-ce que vous avez déjà été un jour dans un tribunal. Est-ce que vous avez entendu, voire même subi, la sentence d'un juge ? Eh bien, moi, je suis allé plusieurs fois dans un tribunal. Et je peux vous dire que dans un tribunal, même si ce n'est pas nous qui sommes jugés, on n'est pas très fiers. On est respectueux de l'endroit, de ce que dit le juge, de l'ambiance pesante. On est intimidé, impressionné. Quand il y a quelqu'un devant le juge, il n'y a pas 50 possibilités. Le juge va rendre sa sentence. Une sentence qui va prononcer soit une faute, une condamnation, ou soit un acquittement. Chers amis, pensons et prions pour ceux qui n'ont aucunement conscience de l'importance de leur avenir éternel. Parlons de ce royaume de Dieu à venir. Naturellement, chaque fois que c'est possible. Et de l'espérance puissante qui est la nôtre. Alors justement, je vous propose de terminer notre méditation sur ce qui est proposé, offert à ceux qui seront acquittés lors du jugement dernier. C'est l'entrée du royaume, dans le royaume de Dieu. Donc, tout d'abord, j'avais remarqué, et cela m'a surpris, que la bonne semence est semé par le Fils de l'homme selon le verset 37, c'est-à-dire par Jésus lui-même. Comment est-ce que cela est possible? Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il n'est pas question dans une parabole de règles théologiques. Nous ne pouvons pas en tirer des règles théologiques. Soyons prudents. Jésus n'est pas en train de dire, par exemple, que des hommes, dès leur naissance, sont parfaits grâce à Jésus-Christ. Ne dis pas ça. Nous le savons bien, tout au contraire, que tous les hommes ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, Romains 3, 23. Et l'apôtre Paul parle aussi dans une autre épître de la malédiction du premier homme Adam qui a contaminé tel un virus bien pire que le Covid tous les hommes de toutes les générations et de tous les temps. C'est l'effet du péché qui se transmet d'homme en homme. Si nous réfléchissons à l'acte de semer, nous avons en tête ce qui arrive à une semence lorsqu'elle est semée en terre. Le grain de blé meurt et au bout de quelques jours, il disparaît en tant que tel. Mais cela est nécessaire pour qu'il puisse donner une belle gerbe avec des dizaines de grains. Jésus est le bon semeur, chers amis. Il veut et il peut intervenir pour nous faire mourir à nous-mêmes et renaître d'en haut. Et c'est un miracle qu'il peut opérer dans chaque cœur humain, dans le cœur de ceux qu'il appelle dans cette parabole la bonne semence. Je me faisais la réflexion finalement qu'il est peu important qu'on soit de tendance calviniste. C'est une théologie qui met en jeu l'intervention souveraine de Dieu, son appel, son élection, ou qu'on soit plutôt de tendance arminianiste. C'est une théologie qui met plutôt en jeu notre décision personnelle. Ce que nous voyons dans notre parabole, c'est deux choses essentielles. C'est d'abord que le Christ intervient de lui-même, de sa propre volonté, de sa propre initiative. Il est à l'œuvre dans notre monde. Les plus jeunes d'entre nous peuvent avoir l'impression que le mal règne dans notre monde et que Dieu brille par son absence. Où est Dieu? Mais il n'en est en réalité pas ainsi. Et n'oublions pas que si Dieu ne veut pas se montrer, c'est parce que nous l'avons rejeté en Éden. En fait, Dieu nous respecte. Il respecte notre liberté, mais nous fait des appels du pied pendant toute notre vie. Notre expérience chrétienne témoigne que Dieu agit et que Christ est vivant. Jésus vit. Il est ressuscité. Il est pleinement actif. Encore aujourd'hui, il touche et gagne des cœurs. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire tout le temps. Il est là en se présent. La deuxième chose qui apparaît dans cette parabole, c'est que le royaume de Dieu n'est pas une illusion, n'est pas une idée de l'esprit, il est clairement promis. Il est aussi certain que le lever et le coucher du soleil. Par exemple, au verset 30, « Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Qu'est-ce que c'est l'image du grenier? Eh bien, c'est le royaume de Dieu. Ou encore au verset 43, « Les justes, eh bien, ils seront dans le royaume de leur Père. » Chers amis, les chrétiens peuvent avoir la pleine assurance du royaume de Dieu à venir. Nous croyons en cela. Nous croyons à la résurrection et au royaume de Dieu à venir. Et cette assurance doit être entretenue et cultivée, d'autant plus qu'on prend de l'âge, qu'on perd ses forces, sa santé parfois. Parce que cette espérance pointe vers un avenir incomparable. Alors que feront les justes dans ce royaume, cette bonne semence? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire dans cette thématique. Et la parabole ne développe pas assez, nous ne le ferons pas aujourd'hui. Mais Jésus, dans cette parabole, développe une idée. Restons dans notre texte. Il dit à ses apôtres que les justes seront comparables au soleil dans le royaume de leur Père céleste. Les justes seront comparables au soleil. Le soleil est un élément essentiel dans notre monde. On ne voit que lui tout le temps, on ne peut pas l'ignorer, sauf la nuit, bien sûr. Chers amis, ne trouvez-vous pas que quand Jésus dit cela, quel honneur il nous fait? Il met en valeur les justes de tous les temps qui seront avec lui au ciel, au paradis. Car pour Dieu, chaque chrétien, Dieu le Père ou Dieu le Fils, bien sûr, chaque chrétien a une importance capitale. Vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, chers amis. Il y a plus de joie pour une brebis retrouvée que pour 99 autres qui sont déjà dans la bergerie, explique par ailleurs Jésus. Chaque chrétien aura une place spécifique, un lieu d'habitation, mais aussi une mission, une activité. Personnellement, en tant que facteur, je prends beaucoup de plaisir, vous savez à quoi ? À apporter des colis aux clients. Ils ont commandé un colis, ils l'attendent, pensant « Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans ma boîte ?» Parce que je sais que quand je viens avec mon colis vers un client, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Quand je vois mon client, eh bien, c'est souvent des sourires et des remerciements. Je l'attendais. C'est un travail gratifiant. Alors, si cette profession me convient et me plaît, combien plus la tâche que le Christ nous prépare sera exaltante et passionnante dans le ciel. Nous ne nous ennuierons pas une minute. Certains s'inquiètent de ce qu'on va faire pendant l'éternité. Nous ne nous ennuierons pas une seule minute, chers amis. Alors, en conclusion, nous pouvons retenir de ce passage que Dieu a un plan très précis pour les hommes. Il l'a exposé devant la foule. Je le fais aujourd'hui devant vous. Un plan très précis pour ceux qui lui appartiennent. Et il met en garde ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Par l'œuvre de son Fils, le divin semeur, Jésus a semé son amour et sa justice dans nos cœurs. Et il prépare une place pour chaque chrétien dans le royaume de Dieu son Père. Alors nous avions souligné au début de cette prédication que chaque parabole veut souligner une idée principale. Vous en rappelez? Vous n'êtes pas encore endormi, j'espère. Alors je vous propose de terminer en participant, vous aussi, en vous rappelant un peu du texte que vous avez entendu. Est-ce qu'une, deux ou trois personnes pourraient proposer, attention, on est en famille, hein, c'est... on n'est pas à l'école, en toute simplicité, si vous avez une idée force, une idée qui vous semble principale que Jésus a voulu illustrer dans cette parabole lorsqu'il parlait à la foule. Qu'est-ce qui vous a frappé ou saisi dans ce texte? La parole est à vous.
Si on lui appartient, il sera avec lui pour toujours.
Un petit peu plus fort.
Si on lui appartient, oui. Il sera avec lui pour toujours.
Oui.
C'est Christ qui a semé la semence.
Christ est venu semer la semence ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Christ intervient. Oui, comme ça. Merci.
La bonne semence et la mauvaise, en fait, les mauvaises herbes doivent vivre ensemble, doivent être ensemble pour se
nourrir. Voilà l'idée, hein, donc, on est à notre place et que la bonne semence doit avoir un effet positif autour d'elle. Est-ce que c'est la mauvaise herbe qui gagne du terrain ? Ou est-ce que c'est la bonne semence avec le Saint-Esprit qui est positive ? Même si le mal progresse dans le monde, chers amis, eh bien il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans ce monde. Pensons à cela. Voilà, l'idée phare que j'en retirais, bien sûr, c'est complètement un complément avec ce que vous dites. Jésus veut nous sauver pour que nous puissions rentrer dans son royaume. Saisissons sa main tendue, la main tendue de Jésus, pendant qu'il en est encore temps. Jésus termine cette parabole en disant, comme bien souvent, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ben oui, ça sert à ça les oreilles. Mais il faut que ça monte au cerveau, et à notre cœur surtout. Soyons attentifs au message de cette parabole du Christ. Et Jésus nous dit au verset 10 de ce même chapitre que ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Mais pourquoi te sers-tu de paraboles pour parler à tous ces gens ?» Jésus leur répond « Vous avez reçu le privilège de connaître le secret, les secrets du royaume de Dieu, mais eux ne l'ont pas reçu. » Notre esprit a besoin d'être ouvert pour que nous puissions être rendus capables de rentrer dans le royaume de cieux. Mais quel miracle, chers amis, pour ceux d'entre nous qui ont reçu ce privilège d'avoir un esprit apte à comprendre l'importance de ce royaume et de pouvoir remercier Jésus de nous avoir sauvés, de nous avoir ouvert grande la porte pour accéder à ce royaume. Et justement, cela nous rappelle notre responsabilité. Ne soyons pas égoïstes, chers amis. C'est une responsabilité que Jésus nous donne. Pourquoi nous avons reçu la parole qui nous a sauvés ? Et pourquoi d'autres ne la recevraient pas ? Soyons sensibles à tous ceux qui n'ont jamais entendu ce message de la bonne nouvelle de Christ. Nous, les chrétiens, remercions Dieu pour ce magnifique projet de son royaume qu'il nous prépare. Je vous prépare une place. Et en attendant le moment de la moisson et le moment où nous rentrerons dans son divin grenier, chers amis, et bien qu'il continue à régner dans nos cœurs. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ces paraboles que tu raconter, Seigneur, tu avais tes raisons pour parler ainsi, Seigneur, moi tu voulais surtout interpeller les gens, interpeller la foule. Et nous nous rappelons, Seigneur, combien les cœurs ont été préparés lorsque l'apôtre Pierre a parlé en ton nom. Seigneur, tu avais semé, tu avais labouré, et 3000 puis 5000 personnes ont eu leur cœur vivement touché par ta parole. Seigneur, nous te demandons de faire une œuvre dans notre vie pour nous convaincre, Seigneur, que cette vie va bientôt s'arrêter, que nous ayons bien conscience des priorités dans notre monde. Seigneur, nous t'implorons que tu mettes devant nous des gens qui nous pourront parler de toi avec liberté, avec crainte peut-être, mais aussi avec une grande joie. Et nous voulons, Seigneur, te louer, te bénir, parce que, Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as ouvert les portes de ton royaume par le Christ. Béni soit le Père,
béni soit le Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen.